que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Bien, de nombreux diplômés d'État sont confrontés au choix des filières après les études secondaires. La plupart d'entre eux optent pour des filières qui n'offrent pas assez d'opportunités d'emploi. En faute de mieux, ils se retrouvent en train de faire des jobs qui parfois ils se retrouvent en train de faire un travail qui n'a rien à voir avec leurs études et leur formation universitaire. Alors comment orienter les jeunes diplômés d'État à opter pour des bonnes filières qui vont leur offrir plus tard aussi des opportunités d'emploi? On en parle aujourd'hui avec notre invité Victor Emmanuel Efomi, secrétaire général du Salon de l'étudiant et technicien en gestion du personnel. Victor, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, quelles sont les raisons qui font que les jeunes ont du mal à mieux s'orienter par rapport aux filières d'études à faire au niveau universitaire?
Bon, j'aimerais d'abord saluer tous vos auditeurs, bien sûr, bien évidemment. Je pense, en ce qui me concerne, que d'abord, les études sont faites de manière assez routinière. Qu'il s'agisse de l'école primaire, on y va parce qu'on est obligé d'aller à l'école. Les parents ont choisi pour vous. Vous arrivez au secondaire, il y a une sorte d'orientation qui se fait au niveau des deux premières CO. Ce n'est pas très élaboré, ce n'est pas très sophistiqué. Et on suit, généralement, on se dit, si on est fort en mathématiques, on fait les sciences. Si on est moins fort en mathématiques, on opte pour la pédagogie et les autres branches. Mais jusque-là, généralement, on n'est pas suivi, on n'est pas détecté en termes de talent qu'on possède individuellement. Donc, personne ne vous conseille réellement sur des choix ou des efforts qu'il faudrait faire pour poursuivre les études. Et quand on arrive aux humanités, on a fini les humanités, c'est pratiquement là, c'est le néant. Parce qu'on sort les humanités, on va à l'université, on ne sait pas quelle est l'offre qui se trouve à l'université. Mmh. Quand je parle d'offre, je dis, bon, on prend l'économie, mais dans l'économie, vous avez par exemple l'économie monétaire, l'économie financière, l'économie de développement, etc., etc., etc. C'est pas présenté à nos élèves, ils ne le savent pas. Donc, ils font des choix, généralement, parce qu'un ami a fait, parce qu'un papa a dit, parce que, etc., etc., etc. Mmh. Alors, je crois qu'il y a deux éléments extrêmement importants dont il faut tenir compte ici. C'est d'abord, un, l'information. Il faut que les jeunes soient informés sur l'offre qui est faite. Ça veut dire sur tout ce qui est organisé au niveau supérieur et universitaire, dans le moindre détail, qu'il faut qu'ils le sachent. Et quand ils sont informés ainsi, il faut qu'ils soient orientés. Et je dis orientés, ça veut dire que on identifie leur talent individuel. Mmh. Parce que nous avons tous...
Qui va identifier ces talents?
On doit concevoir la mise en place des conseils d'orientation. C'est là que je vais revenir sur le salaire de l'étudiant. Mmh. Nous avons l'ambition d'offrir aux jeunes chaque année un cadre de rencontre où ils pourront être suivis, être orientés, être conseillés en termes d'identifier leurs talents individuels et ensuite voir quels sont les besoins du marché de l'emploi. Parce qu'il faut qu'il y ait adéquation entre ces deux aspects-là. Le marché de l'emploi, qu'est-ce qu'il exige et qu'est-ce que j'ai comme talent individuel? Si on arrive à mettre une éducation entre ces deux aspects-là, nous avons réglé ce problème-là. Quoi. Mmh.
Donc, je comprends, on peut récapituler les causes qui font que les étudiants ne sont pas bien orientés dans leur filière. D'abord, c'est le manque d'informations.
Le manque d'informations.
Ils ne sont pas informés.
Exact.
Et en plus, il n'y a pas
Il n'y a pas de structure qui organise l'orientation de manière élaborée, de manière suivie, de manière poussée, de manière sophistiquée au niveau supérieur.
Et cela devait commencer déjà au niveau du secondaire.
C'est-à-dire que...
Cette orientation.
Déjà au niveau des parents.
On parle du cycle d'orientation, non, au niveau du secondaire.
Oui, mais c'est officiel. Est-ce qu'en réalité, aussi, je ne sais pas si vous avez des enfants qui ont 10 ou 12 ans, y a-t-il une structure qui est réellement organisée qui peut vous dire, voilà, votre enfant, on l'a suivi, voici le don qu'il a de la nature, voici le talent qu'il a, qu'on va promouvoir? C'est pas fait. Ok? Mmh. C'est officiel, ça existe officiellement, mais l'élève et les parents sont abandonnés à eux-mêmes. Je n'ai pas le sentiment que des spécialistes suivent nos enfants de manière sophistiquée, de manière élaborée, pour dire que, par exemple, je prends un exemple, Je connais un enfant qui est au primaire et qui se bat pour faire les mathématiques, qui se bat pour faire la langue française, il n'y arrive pas. Il souffre, c'est un calvaire pour lui. Mais c'est un grand footballeur. Voilà. Donc il faudrait qu'on sache à un moment donné quel est le don de cet enfant-là et qu'est-ce qui vaut mieux pour lui. Ok. Sinon sa vie est un enfer et en fait il perd son temps. Donc, aux humanités, il n'y a pas une structure qui est vraiment organisée pour faire...
Qui peut détecter les talents des jeunes gens, qui peut détecter, n'est-ce pas, leurs aptitudes et
exactement.
Les orienter en fonction de cela.
Exactement.
Ces structures-là n'existent pas.
De manière officielle, hein, vous avez les deux premières CO qui doivent résoudre ce problème-là. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe réellement? Voilà la question.
Voilà. Et aujourd'hui, on parle du projet Salon de l'étudiant. Est-ce qu'on peut dire que c'est une réponse à ce besoin?
Ça pourrait être une réponse parce que c'est encore un projet que nous sommes en train de mettre en place. Okay?
Oui.
C'est la première édition.
Parlez-nous en détail de ce
exactement.
Projet.
Exactement. Le Salon est un projet qui vise à mettre en harmonie, en relation, en contact. C'est une interface entre d'un côté précisément les élèves du secondaire, qui terminent du secondaire, qui vont donc aller aux universités, leurs parents, qui sont leurs décideurs, et de l'autre côté, tout ce qui est organisé dans le monde de l'enseignement supérieur et universitaire, pour justement leur permettre d'avoir un contact précis, des échanges élaborés, de sorte à pouvoir faire des choix qui tiennent compte, comme j'ai dit, de leurs talents et de l'offre qu'il y a sur ces universités-là. De sorte à créer une adéquation entre les besoins de l'économie, les talents individuels et les choix de formation. De sorte que quand ils sortent des études, ils ne se retrouvent pas dans la rue en train de faire ce qu'ils ne doivent pas faire, mais qu'ils se retrouvent directement dans un emploi plus précis. Je prends un exemple. Qui sait aujourd'hui que la plus grande richesse de ce pays, c'est l'eau? Qui sait qu'une des plus grandes richesses de ce pays, c'est la forêt? Nous avons la forêt la plus dense du monde, la plus importante du monde, après le Brésil. Nous avons la réserve d'eau la plus dense du monde, après le Brésil toujours. Combien d'ingénieurs avons-nous dans le domaine hydraulique, par exemple? Combien d'ingénieurs avons-nous dans le domaine de la foresterie? Donc, il y a des métiers d'avenir qui doivent être promus, mais les gens ne savent pas. Et les gens qui doivent faire ce travail-là, peut-être qu'ils n'existent pas. Nous sommes là, nous avons commencé. On espère être suivis et être imités, de sorte que nous puissions remplir cette fonction d'orientation.
Donc, le salon de l'étudiant est un cadre d'échange qui va réunir étudiants, parents et universités, c'est ça?
Étudiants, parents, universités, agences de voyage qui font des voyages à l'étranger, tous les opérateurs de l'orientation universitaire, voilà l'objectif que nous visons.
Et c'est prévu, quand est-ce que c'est là?
C'est prévu pour le 2, le 3, le 4 juillet prochain, donc dans moins d'une semaine à peu près. Le 2, c'est la journée officielle d'ouverture, avec son excellence monsieur le ministre de l'enseignement primaire secondaire, ou son représentant, et la presse, etc., etc. Et le 3, le 4, le public est invité massivement à nous visiter.
Où est-ce que ce salon va se tenir?
Au Centre Congo Loisirs, avenue de la Libération, en face, en diagonale de la SANEF.
Ici à Kinshasa.
À Kinshasa.
Et qu'est-ce qu'il y aura? On va retrouver des dents. Pouvez-vous nous donner une idée? Il y aura des stands, chaque université, chaque service d'orientation. Il y a un espace où on expose.
Exactement. Vous avez la salle appelée la salle, dans la salle de Congo Loisir. Et là, nous allons avoir une vingtaine de stands. Les universités vont exposer. Et les visiteurs vont poser des questions, se renseigner sur leurs offres. Et il y aura des conférences, aussi à cette conférence, il y aura aussi des conférences.
Voilà, il y aura aussi des conférences. Donc j'imagine qu'il y aura également des spécialistes en orientation qui seront là en permanence pour échanger avec les élèves.
Exactement. C'est notre vision. Donc l'information d'un côté et de l'autre côté l'orientation. Les deux aspects vont de pair, vont ensemble, et c'est cet aspect-là qui nous permet justement de faire que les choix qui seront faits par les élèves de fil de formation soient les choix les plus intéressants pour eux par rapport à leur avenir.
Oui, mais pensez-vous qu'en une journée ou en quelques heures, on peut échanger avec quelqu'un et connaître suffisamment ses talents et bien l'orienter?
D'abord, c'est pas une journée, c'est deux jours déjà, le 3 et le 4, D'accord. Mais là, c'est une démarche d'initiation, d'accord? C'est une démarche qui va donner l'information, dire aux gens qu'il existe des mécanismes qui permettent aux gens de connaître ce qu'ils ont comme talent intrinsèque, d'accord?
Oui.
Et il y a des mécanismes qui permettent aux gens de savoir quels sont les besoins du marché de l'économie, d'accord? Et il y a des structures qui sont extérieures au salon, qui peuvent être consultées à ce moment-là.
Vous voulez participer à cette émission, appelez-nous au 081-890-63-79. 081-890-63-79.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explication et débat autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Bien, nous avons quelques réactions des auditeurs par rapport à ces thèmes. Comment orienter et aider les jeunes diplômés d'État à choisir de bonnes filières d'études. Nous avons quelques réactions des auditeurs. Laurent Bailanda, Kambalé, nous a écrit depuis Butembo. Il dit ceci, le choix de la filière d'études doit se rapporter aux cours dans lesquels on réussit mieux. Normalement, un jeune diplômé d'État doit enchaîner le même domaine du secondaire, mais beaucoup d'entre eux se basent sur les décisions des parents et le besoin du milieu. D'autres veulent seulement avoir, être avocat, ingénieur ou docteur sans en avoir les notions des bases. Alors par la suite, les résultats qu'ils obtiennent ne sont pas toujours meilleurs. Alors quelqu'un qui n'a pas des notions en biologie, chimie, par exemple, se retrouve très difficilement en sciences biologiques ou pharmaceutiques. Donc il évoque le problème. Donc parfois, les jeunes n'ont pas la bonne information. Alors ils se soumettent aux décisions à la décision des parents ou soit au besoin du milieu parce que dans milieu, on a besoin de telle chose, et puis voilà, on s'élance sans en avoir les capacités. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette réaction?
Je pense, cher ami Laurent, que le premier choix se fait au niveau des humanités. Au cycle d'orientation, on a fait un premier choix. Quand vous passez en troisième ou en quatrième, vous avez déjà exclu une partie des formations futures. Je prends un exemple très simple. Quand vous avez décidé de faire pédagogie ou littéraire, sachez que vous ne pourrez plus faire la biologie plus tard. Ça n'a aucun sens. Vous ne ferez pas l'essence exacte après. Parce que vous avez déjà choisi les branches humaines, les sciences humaines. Donc maintenant, vous avez fait le choix des sciences humaines par exemple, vous avez un large éventail de choix dans ces sciences humaines. Vous avez le droit, l'économie, la sociologie, etc. Et si vous avez fait le choix de l'économie, vous aurez des branches, des sous-branches, des options que vous choisirez. Économie monétaire, économie financière, etc., comme le développement. Donc, c'est à vous de faire le choix au départ. Le vrai premier choix, c'est au niveau des humanités, au niveau du secondaire, en deuxième, en troisième, en deuxième CO. Vous et vos parents, si les parents sont des parents progressistes, ils peuvent débattre avec vous, ils peuvent progresser avec vous. Peut-être qu'à cet âge-là, ont-ils plus de connaissances que vous pour vous aider à vous orienter. Donc je crois que le premier choix se fait à ce niveau-là, et ce choix-là oriente tout le reste. Si vous avez fait le choix de faire les choses exactes, il vous sera un peu difficile plus tard de faire le droit, par exemple. Donc voilà.
Bien, Mouimbo Patrick Kibali, nous écrit depuis Kindu. Vous voulez participer à cette émission, appelez au 081-890-63-79. 890-63-79, n'attendez pas les dernières minutes, appelez déjà pour vous inscrire et nous allons vous appeler pour participer. Nous avons la question de Mouimbo Patrick depuis Kindu, dans la province du Maniema. Il nous dit ceci, est-ce que c'est parce que le pays n'a pas beaucoup d'orientateurs scolaires, parce que vous verrez un enfant qui fait par exemple l'ITPK, moi, qu'est-ce que cela veut dire, ITPK, je ne sais pas. Voilà, institut, je ne sais pas, l'ITPK aux humanités et à l'université, il veut faire la médecine. Donc il y a comme ça des enfants qui font telle formation au niveau secondaire, et au niveau universitaire, il change clairement, il va faire quelque chose qui n'a même pas des liens avec ce qu'il a fait au niveau du secondaire. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, là, j'ai dit que c'était un drame parce que en principe, quand vous avez fait une option, le choix de formation de type littéraire, de type pédagogique, de type économie, vous ne pouvez pas prétendre après faire les sciences exactes, la physique nucléaire, ça n'a aucun sens. Ça veut dire que vous pouvez éventuellement, si vous avez découvert plus tard que cette passion existe en vous, à la limite recommencer les humanités. parce que vous n'avez pas les bases pour faire ces sciences-là. D'accord ? Et c'est vice-versa. Hein ? Vous avez fait, par exemple, les sciences exactes, vous voulez faire le droit, ce n'est pas évident. Donc, le choix qu'il faut faire, le premier choix qu'il faut faire correctement, c'est le choix au niveau du secondaire, de choisir entre l'aspect sciences exactes et aspect sciences humaines. Ce premier choix va devoir orienter toute votre vie. Alors, si le choix a été mal fait, ça c'est regrettable, on ne peut rien y faire. Mm-hmm. Mais si le choix est bien fait, à ce moment-là, il n'y a pas de grand problème par rapport au suivi.
Bien, à ce moment-là, il n'y a pas de grands problèmes. Même par exemple, l'examen d'État édition 2014-2015 vient de prendre fin, c'était jusqu'à hier. Est-ce que c'est le moment indiqué où il faut commencer à orienter ces futurs étudiants?
Non, moi je crois que le choix des formations futures dépend d'abord des parents qui connaissent leurs enfants depuis le jeune âge. Un parent qui est attentif à son enfant, un parent qui aime son enfant et qui le suit correctement, c'est déjà identifier les dons de l'enfant. C'est déjà identifier les talents de l'enfant. Et à partir de là, si le parent a des relations étroites avec les professeurs, les instituteurs, à ce moment, le travail est beaucoup, beaucoup simplifié. Parce que les relations entre les parents et l'école permettent déjà d'affiner les choix que l'enfant pourrait faire. Si en plus ce parent est un parent progressiste, un parent moderne, qui discute avec son enfant sur ce qu'il va faire comme étude plus tard, les choses se passent correctement.
Voilà. Voilà, il y a une collaboration, il faut qu'il y ait la collaboration entre l'école.
L'école, les parents et l'enfant, qui est l'acteur principal.
Il ne faut pas lui imposer une filière comme les fonds.
Ça n'a pas beaucoup de sens. Ça n'a pas beaucoup de sens. Je suis opposé.
Et pourquoi ils les font les parents qui disent non, toi tu dois faire ça, les sciences commerciales, parce que tu auras un boulot.
Bon, j'ai un ami qui est juriste qui estime que tous ses enfants doivent faire un peu de droit. Et il leur impose le droit, mais est-ce qu'il a posé la question aux enfants ce que eux ils aiment, ce dont ils sont capables? Parce qu'il ne faut pas seulement aimer, il faut aussi être capable d'eux. Ok? Donc ce sont deux aspects dont il faut tenir compte. Avez-vous les talents voulus pour pouvoir faire.
Et lui, que tous ses enfants.
Il souhaiterait. Mais je ne sais pas si ça va marcher comme ça. Quoi, voilà.
Est-ce qu'il a discuté déjà avec ses enfants?
Je ne suis pas à l'intérieur de la famille, je ne sais pas très bien.
Vous ne savez pas très bien. Mais souvent, il y a des parents qui s'imposent.
Hein. Oui, généralement.
Je veux que tu fasses ça, et puis.
Généralement.
Il n'y a pas de débat, allez.
Généralement.
Exécution.
C'est exact.
Appelez pour participer au 081-890-63-94. Les salons, aujourd'hui, nous recevons M. Victor Emmanuel Ifomi, secrétaire général du salon de l'étudiant et technicien en gestion du personnel. Vous avez dit que ces salons vont se dérouler du 2, je crois, au 5 juillet.
Au 4 juillet prochain.
Et là, il y aura ces salons vont mettre. C'est un lieu de rencontre, d'échange entre universités, parents et.
Université, agence. Futurs étudiants. Agence qui organise des voyages à l'étranger, parce que c'est par rapport à l'étranger aussi. Il y a des formations qui ne sont pas organisées ici et qui peuvent être organisées à l'étranger. Il y a des gens qui ont suffisamment de moyens pour ne pas vouloir étudier ici et aller étudier à l'étranger. Donc, nous sommes comme un marché. Un marché où il y a d'un côté l'offre, la demande, qui sont les parents qui veulent voir les enfants faire les études supérieures et les enfants, les finalistes. Il y a aussi par rapport à ceux qui ont un emploi déjà, mais qui veulent se reconvertir. Il y a des chômeurs qui ont fait, par exemple, une licence en telle branche, qui estiment qu'ils n'ont pas suffisamment de possibilités d'emploi, et qui veulent faire une rocade, d'accord? Ceux-là aussi peuvent venir participer. Et de l'autre côté, il y a l'offre. Donc, comme j'ai dit, c'est les universités elles-mêmes, les écoles supérieures, et bien sûr, les agences qui facilitent les formations à l'étranger. Donc, c'est un cadre de rencontre dans lequel les échanges vont se faire, peut-être même des contrats, des conventions vont peut-être se passer aussi.
Oui.
Et voilà, nous sommes là comme intermédiaire, interface pour faciliter cet aspect-là. Voilà.
Voilà, et ça va se passer, le salon s'ouvre de quelle heure à quelle heure?
Il s'ouvre de 9, chaque jour de 9h à 18h. Le premier jour, c'est la journée de conférence, d'ouverture officielle. C'est réservé aux officiels et à la presse notamment. Mais le deuxième, le troisième jour, donc le 3 et le 4, c'est tout le public qui est invité massivement à venir participer.
Et au programme, au menu, vous avez dit il y aura des conférences et quoi d'autre?
Il y aura des conférences, non, on peut pas avoir tout. On aura suffisamment avec les conférences qu'on aura et les exposés qui seront faits par les exposants. Donc l'université, par exemple, SMK, École supérieure de management de Kinshasa viendra, va exposer et fera aussi un petit mot de circonstance et pour présenter son école et le présenter en rapport avec le thème du salon qui est « Quel étudiant pour un Congo émergent en 2030 ?»
En 2030 ?
Oui. C'est la vision du chef de l'État d'un Congo émergent en 2030 et il me pose la question « Quelles sont les conditions que l'État doit remplir pour contribuer à cette vision-là ?»
Nous avons un premier auditeur en ligne, Symphorien Bidoya. Il nous appelle de Kananga, dans la province du Kasaï occidental. Symphorien, bonjour.
Oui, bonjour, je dis bonjour à tous.
On vous écoute.
Oui, merci de la parole. Bon, je prends le cas de notre province, le Kasaï occidental. Il n'y a pas tellement donc, les contraintes que l'invité vient d'énumérer qui font en sorte que les jeunes étudiants ou les finalistes puissent faire un mauvais choix des heures d'études à l'université. Il y a aussi un problème des options. Il n'y a pas beaucoup d'options, surtout en matière de la technique, qui sont organisées ici dans l'université au Kasaï. Par exemple, si nous prenons le domaine de l'électronique, bon, quand quelqu'un fait l'électronique ou l'électricité, s'il désire, par exemple, dans les donc à l'université, faire, par exemple, continuer avec l'électronique, continuer avec l'électricité, il aura beaucoup de contraintes s'il n'a pas les moyens de voyager vers d'autres provinces comme Kinshasa et Katanga. Et à part ça, il y a aussi les problèmes de la qualité des études. Il y a des options qui sont réalisées dans les universités, mais les étudiants ne savent pas y aller parce qu'il n'y a pas une bonne formation. Ce sont là vraiment beaucoup de contraintes qui font en sorte qu'on puisse faire un mauvais choix de l'option à l'université, surtout dans notre province de Kasaï occidental. Merci.
Bien. Monsieur Victor, qu'est-ce que vous pouvez dire à Saint-Forien?
Mais je crois que nous sommes là dans les prérogatives d'un gouvernement. C'est l'offre de formation dans une région procède de la politique gouvernementale. Je crois que les autorités ont entendu ce que notre frère de Kasaï a dit, et je crois que ça relève du gouverneur, ça relève de l'éducation nationale, de promouvoir une meilleure offre de formation à l'intérieur pour qu'il ne soit pas rendu nécessaire de s'exiler ailleurs, ni à l'intérieur
du pays. Ils font des formations.
Voilà, ils font pas ce qu'ils souhaitent faire. Ouais. Donc là, c'est vraiment le gouvernement et puis les opérateurs privés qui peuvent aussi organiser des formations plus élaborées à l'intérieur du pays.
Comment aider les jeunes diplômés des terrains à choisir des bonnes filières d'études? Alors dites-nous, au cours de ces salons, les jeunes comment vont-ils arriver à faire des choix, des filières d'études?
Je le répète, le choix des filières d'études ne se fait pas en un jour. C'est une réflexion qui est longue, qui est lente, qui est très longue, d'accord? Parce que il y a des choses qu'on découvre beaucoup plus tard dans la vie. D'accord.
Oui.
Et je dirais que le salon sera une sorte de d'impulsion. OK? Pour qu'ils sachent, que dorénavant les jeunes sachent par exemple que chacun d'entre nous a des talents que Dieu lui a mis, le Créateur a mis dans son, quand il est né, d'accord? Et que ces talents doivent être promus grâce à la connaissance qu'il acquiert à l'université ou ailleurs, et grâce aux techniques qu'il acquiert ailleurs, d'accord? Alors, à partir de là, cette démarche, elle se fait journalièrement. Vous savez, il y a des jeunes gens qui vous disent « Ah, moi, quand je serai grand, je serai médecin. » Ils vous le disent et on voit dans leur comportement...
Ils ont déjà des rêves.
Ils ont déjà des rêves. Et on voit dans leur comportement qu'ils s'occupent des problèmes qui ont lié avec la médecine. Et c'est ce talent-là qui continuera jusqu'au bout et il n'y a pas beaucoup de problèmes. Il y a d'autres qui ne savent pas ce qu'ils sont réellement, qui se connaissent pas très bien, mais que le salon peut contribuer à aider
à découvrir leurs aptitudes.
Le salon sera un point focal d'une activité, d'accord, mais qui doit se rayonner et qui doit continuer, se poursuivre plus tard. Peut-être que grâce au salon, peut-être que des gens vont faire la psychologie de l'orientation à l'université, parce qu'ils savent qu'il y a une demande plus importante. Et c'est vrai ce que nous avait dit notre ami de Kananga, il n'y a pas assez d'orientation, d'orientateur si je peux dire, d'accord? Et peut-être, comme j'ai dit, que le salon sera un point de départ pour que ces formations soient de plus en plus suivies au niveau des études supérieures.
Georges Mukinda nous appelle de Manono, dans la province du Katanga. Georges, bonjour.
Bonjour, M. Jody, bonjour aussi à M. Victor Emmanuel. J'ai deux préoccupations à demander à notre invité, mais avant d'y arriver, je dois partir d'une situation ici de nous. Et surtout ici, chez nous à Manono, les parents qui ont toujours eu l'habitude de faire les choix pour leurs enfants. J'ai connu un papa, M. Jody, qui voulait que son enfant soit électricien, que l'enfant voulait être mécanicien. Et les papas, avec cette conscience, les papas avaient décidé d'interrompre de payer pour lui les frais académiques. Alors, je voudrais demander à l'institut, qu'est-ce qu'il peut, conseiller aux parents qui induisent en erreur à leurs enfants pour les obliger à faire des facilités, même si ça n'a donne pas de travaux aux enfants. Pour la deuxième préoccupation, je voudrais demander si je demande des niveaux pour certains diplômés qui choisissent de finir parce qu'à l'université, même si ça n'a pas beaucoup de travaux, mais ils ne font pas de se passer des cours contre la société de l'histoire. Traînent des cours, par exemple, comme l'informatique, parce que là où il y a beaucoup de quartiers, les étudiants n'ont pas aussi la cause du fait que beaucoup d'étudiants choisissent ces filières.
Voilà, les étudiants choisissent les filières beaucoup plus faciles.
Voilà, c'est ça. Ils choisissent des filières faciles comme la géographie. Ils traînent de ces filières là où il y a des qualités pour dire que nous ne sommes pas très forts en qualité.
D'accord, merci. Alors, la première question de Georges, il nous dit que là-bas, Manono, c'est fréquent. Les parents ont l'habitude d'imposer leur choix des filières d'études aux enfants. Et il vous demande comment arriver à mettre fin à ce genre de situation.
Bon, je crois que c'est pas seulement Manono, hein. Je crois que c'est partout. Hein.
C'est un peu partout. Hein.
Je crois que, mais je ne pense pas qu'il y ait un seul parent qui, de mauvaise foi, ok, irait imposer à son enfant de faire telle étude, telle étude. Je crois que ça procède d'abord peut-être de l'amour que le parent a pour son enfant, de dire « moi j'ai peut-être fait ça, ça m'a permis de faire ceci, cela, je voudrais que mon enfant fasse un peu comme moi ». Ça c'est peut-être un peu d'égoïsme, peut-être de l'amour un peu égoïste.
D'amour égoïste.
Mais voilà, c'est un peu ça. Mais ce n'est pas de la mauvaise foi ni de la dictature méchante, si je peux dire.
Oui.
D'accord. C'est une première chose. Mais ce que je peux dire aux parents maintenant, c'est ceci. C'est que je crois, et moi c'est ce que je fais chez moi à la maison, je crois qu'il faut qu'il y ait, même si un enfant a 10 ans, il a déjà une pensée personnelle, il a déjà une vision personnelle, il faut qu'il y ait un dialogue. Il faut qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait un échange, et peut-être que le parent est capable de persuader son enfant qu'il a raison. Et à ce moment-là, la chose est prise avec soumission, avec sérénité par l'enfant. Donc il ne faut pas qu'il y ait imposition, qu'il n'y ait pas de dictature. Mais en fin de compte, s'il y a un dialogue approfondi, un dialogue suivi, un dialogue sérieux, les deux parties peuvent arriver à harmoniser leur point de vue. Et pourquoi pas, le parent peut être amené à changer d'option par rapport à ce qu'il avait voulu imposer à l'enfant.
Et les parents sont invités à ces salons.
Mais c'est plus qu'évident.
Les étudiants.
Tout le monde, tous ceux qui estiment que la culture, ce n'est pas seulement le théâtre et la musique, ceux qui estiment que le développement de l'esprit, l'élévation spirituelle est une chose importante, qu'ils viennent nous appuyer dans ce projet.
Aaron Bidiloukounou nous appelle des Kananga. Bonjour Aaron.
Bonjour Jody, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi, c'est Aaron Bidiloukinou depuis Kananga.
Bidiloukinou, allez, on vous écoute.
Aaron Bidiloukinou depuis Kananga. Je voudrais intervenir par rapport à la première intervention.
Oui.
Je suis au Kassai Occidental. Il est vrai que le service des conseillers d'orientation est là, mais le service n'est pas élargi dans toutes les écoles ou bien dans tous les bureaux gestionnaires comme c'était prévu. Alors, moi, je pense que c'est un grand problème qui fait aujourd'hui que les étudiants ne se retrouvent pas lorsqu'ils passent à l'université. C'est parce qu'au niveau primaire...
Oui, Aaron, vous êtes là? Voilà, il est là, mais on l'a perdu. Sûrement, il y a un problème au niveau de la liaison téléphonique. Il nous parlait du service. Les conseillers d'orientation sont là, mais ils ne se retrouvent pas dans toutes les écoles. C'est ça le problème. Pourquoi? Parce qu'il y en a pas. On n'a pas assez de conseillers d'orientation.
Mais je pense que d'abord, nos conseillers d'orientation, nous parlons du enseignement supérieur. Moi, je ne pense pas que ça existe de manière très élaborée. Nous avons un conseil d'orientation au niveau du primaire, ok? C'est organisé, mais au niveau, là, le passage entre les humanités et l'université, je pense qu'il y a un vide extrêmement important que le salon pourra contribuer à réduire.
Et ces salons, deviendra, ce sera un événement annuel.
Nous voulons que le salon soit non seulement un événement permanent, pérenne, d'accord, mais en plus qu'il s'étend dans les régions, dans les provinces universitaires. Ça veut dire que nous visons peut-être pas l'année prochaine, peut-être l'année suivante, d'aller à Lubumbashi Et ensuite, si nous avons suffisamment d'appui, si les gens qui généralement appuient l'aspect musique et l'aspect théâtre peuvent nous donner un coup de main aussi, nous estimons que nous pourrions étendre notre activité sur les quatre grandes villes universitaires que sont Lubumbashi, Kisangani et le Bas-Congo par exemple. Mmh. Nous serions disponibles intellectuellement de manière à pouvoir faire ce travail-là, quoi. Mais c'est un grand travail pour lequel il faut que chacun mette un peu la main à la pâte.
Voilà, c'est un grand travail où chacun est appelé à mettre la main à la pâte. Donc, je suppose que toutes les grandes universités de Kinshasa seront représentées à ce salon.
Pas
vraiment l'université de Kinshasa, l'UNIKIN, UPC, les facultés catholiques, ISP, Gombe et les autres, UPEN.
Nous avons invité beaucoup de gens. J'ai eu beaucoup de difficultés à pouvoir les rencontrer. Et vous avez généralement un monsieur qui reçoit ce dossier et qui le traite à la manière congolaise, c'est-à-dire avec beaucoup de lenteur, beaucoup de tergiversation, et vous devez les revoir, vous repartez. Mais nous aurons à peu près une vingtaine de personnes, une vingtaine d'exposants qui seront avec nous.
Voilà, une vingtaine d'exposants.
Je suis encore en ce moment en contact avec les universités, certaines universités, parmi lesquelles vous avez cité, pour obtenir leur adhésion.
Voilà, parce que c'est déjà la semaine prochaine. Hein.
Nous avons déjà pas mal de gens aussi. Nous avons l'ambassade américaine avec Kali, Yali, Mouk. Nous avons SMK, l'école supérieure de management de Kinshasa. Mm-hmm. Nous avons Bright Quest, qui est une agence de voyage à l'étranger. Nous avons plusieurs universités déjà. Nous serons opérationnels le 2 juillet prochain. Il n'y a aucun problème.
Il n'y a aucun problème. Comment aider les jeunes diplômés d'État à choisir des bonnes filières d'études? On retient qu'il faut tout commencer au niveau familial. Au niveau de la famille, les parents doivent être à mesure de détecter à temps les talents, les aptitudes que les enfants ont, et c'est ce qui va leur permettre de leur donner une certaine orientation. Et au niveau de l'école, il y a aussi des conseillers d'orientation,
et un dialogue permanent
avec l'enfant lui-même.
D'abord entre les parents et les conseils d'orientation, entre les parents et les professeurs, et puis bien sûr, comme j'ai dit, entre les parents et leurs enfants. Qu'ils soient à l'écoute de leurs enfants, parce qu'ils peuvent ils peuvent martyriser un enfant qui n'a pas les capacités intellectuelles très élaborées, d'accord, dans un domaine X, alors qu'il a un talent extraordinaire dans un autre domaine, quoi. Voilà.
Voilà, disons que le salon vient apporter quand même une réponse par rapport à ses besoins d'orientation.
Je dirais un début de réponse.
Un début de réponse.
Comme les gens aiment bien imiter, je souhaite qu'on nous imite et qu'en dehors du salon, les activités du genre orientation soient de plus en plus promues au niveau de l'université, au niveau des choix que feront les psychologues d'orientation.
Ce salon de l'étudiant commence le 2 juillet à Kinshasa et c'est pendant 3 jours.
Exactement.
Pendant 3 jours. Alors, les contacts, peut-être qu'il y a certaines personnes qui voudraient avoir, après cette émission, des plus amples informations. Ils peuvent vous contacter à quel numéro?
Je fais d'abord une précision.
Oui.
Ne bipez pas, ça ne sert à rien, je vous répondrai pas. Depuis que je suis passé à la première émission,
gare au bipeur,
j'ai reçu une centaine de bips, mais quelques-uns m'ont appelé, et quand on m'appelle, je réponds avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de disponibilité.
Gare au bipeur,
Voilà. S'il vous plaît. Donc, le numéro, c'est le 082.
Oui.
16 16 932. Je répète, 082 16 16 932. Je suis à leur disposition, quelle que soit l'heure de la journée. S'ils peuvent me permettre de dormir la nuit, pour me reposer, pour me récupérer. Mais toute la journée, je suis à leur disposition.
Pour répondre aux préoccupations.
Toutes les questions, je leur répondrai. Il n'y a pas de problème.
Victor Emmanuel Efomi, secrétaire général du Salon de l'étudiant et technicien en gestion du personnel. Merci et bonne journée.
C'est moi qui vous remercie.